de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous?
Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Dewi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre « Koi optimiste que l'Indonésie entrera dans l'histoire aux Jeux olympiques de Paris 2024 ». L'Organisation des Nations Unies cherche à faciliter les exportations de nourriture et d'engrais russes. L'Indonésie et la ville de Fuzhou explorent la coopération au secteur de la pêche. Le ministre de la Coordination des Langues a déclaré que la République d'Indonésie est prête à fournir des batteries de véhicules électriques aux États-Unis. Erlangga a déclaré que l'une des priorités du président Jokowi pour régler Ica Cepa. Bon, chers auditeurs, voici le journal en complet. Le président du Comité olympique indonésien, ou KOI, Raja Sabta Oktohari, est optimiste quant à la capacité de l'Indonésie à écrire une nouvelle histoire aux Jeux olympiques de Paris 2024. Cité par Antara dans un communiqué officiel samedi, a-t-il dit, cela peut être réalisé en augmentant le nombre d'athlètes qui se sont qualifiés pour des médailles supplémentaires. Néanmoins, Okto a évalué que la Fédération nationale doit bouger activement pour participer au processus de qualification pour les Jeux olympiques. Car selon lui, en suivant le processus de qualification, il y aura plus d'athlètes indonésiens qui auront les qualifications pour concourir aux Jeux olympiques de Paris. Le porte-parole du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Stéphane Dujarric, vendredi, dit « L'Organisation des Nations Unies continue d'augmenter les exportations russes de nourriture et d'engrais dans le cadre d'un accord parallèle avec l'initiative céréalière de la mer Noire qui permet aux exportations agricoles ukrainiennes de port de la mer Noire. » Selon Dujarric, secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, Rebecca Greenspan et son équipe continuent de travailler dur pour assurer la pleine mise en œuvre du protocole d'accord sur les exportations russes d'aliments et d'engrais. En outre, selon lui, l'Organisation des Nations Unies travaille avec la Banque africaine d'import-export pour concevoir une plateforme de financement du commerce pour permettre des transactions efficaces entre les exportateurs russes de produits alimentaires et d'engrais et les acheteurs africains. Le ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Sakti Wahyu Trenggono, a révélé que le gouvernement indonésien étudiait la coopération au secteur de la pêche avec le gouvernement de la ville de Fuzhou, République populaire de Chine, qui est connue comme la ville maritime. Dans un communiqué publié samedi, le ministre Trenggono a déclaré que de nombreux produits de la pêche indonésiens pouvaient être exportés à Fuzhou. Selon lui, la République populaire de Chine est un marché stratégique pour les produits de la pêche indonésiens, où la valeur des exportations de l'année dernière a atteint 1,12 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 26,29% par rapport à 2021. alors que les principaux produits de la pêche destinés à l'exportation comprennent les crevettes, calamars, pieuvres, algues et crabes. En plus du potentiel de coopération commerciale, le ministre Trengono offre une coopération dans d'autres domaines tels que l'aquaculture et l'industrie de transformation à développer en Indonésie. Selon lui, l'Indonésie a de grandes pêches, de capture et des ressources aquacoles soutenues par des baies et de larges côtes. De plus, a-t-il dit, la gouvernance de la pêche en Indonésie donne également la priorité au principe de l'économie bleue qui privilégie la durabilité. Le ministre coordinateur de l'économie Airlangga Hartarto a transmis que l'Indonésie est prête à devenir un fournisseur de batteries de véhicules électriques aux États-Unis. Cela a été transmis lors d'une réunion avec la ministre américaine du Commerce Gina Raimondo en marge de la réunion ministérielle économique Indo-Pacific Framework for Prosperity, ou abrégée en IPEF, à Détroit, États-Unis, qui s'est tenue vendredi. Dans sa déclaration du samedi, Airlangga a déclaré que l'Indonésie, en tant que pays disposant de grandes réserves de nickel, pourrait devenir un partenaire stratégique des États-Unis dans le développement de véhicules électriques. Selon les données de US Geological Survey, les réserves de nickel de l'Indonésie sont au premier rang, atteignant 21 millions de tonnes ou l'équivalent de 22% des réserves mondiales. La production de nickel de l'Indonésie est également classée au premier rang avec 1 million de tonnes, excédant les Philippines avec 360 000 tonnes et la Russie avec 250 000 tonnes. Gina Raimondo a apprécié le soutien de l'Indonésie dans le cadre économique Indo-Pacifique et a déclaré que la coopération dans le développement de batteries de véhicules électriques pourrait avoir un impact important sur les deux pays, en particulier en offrant des opportunités d'emploi. Le ministre de la Coordination des Affaires économiques, Airlangga Hartarto, a déclaré que l'achèvement de l'Indonésie et le Canada sur un accord de partenariat économique ou abrégé en ICACEPA est devenu l'une des priorités du président Joko Widodo. Il a transmis un rapport avec la réunion bilatérale avec la ministre du Commerce international du Canada, Marian, à Détroit, États-Unis. Cité par Antara dimanche, la déclaration a été transmise afin de suivre les espoirs de Marian afin que les deux pays puissent immédiatement terminer la négociation entre l'Indonésie et le Canada, Comprehensive Economic Partnership Agreement, ou abrégé en CEPA, et pourrait réaliser immédiatement l'engagement de la coopération halal pour les produits canadiens. De plus, les deux ministres discutent également du groupe de travail pour la coopération économique indonésienne-canadienne afin que la mise en œuvre de la coopération économique puisse être plus pragmatique et pratique. À cette occasion, le ministre Marian a également exprimé l'intérêt du Canada pour la coopération avec l'Indonésie dans le secteur des minéraux critiques ou le matériel minéral critique. C'est tout le journal d'aujourd'hui. Voici la mise au point de la semaine dont le titre est « Le président Jokowi reçoit la visite de la délégation US-ABC ». Le président Joko Widodo a reçu la visite d'une délégation de US-ASEAN Business Council, ou abrégé en US-ABC, au palais présidentiel de Bogor, la province de Java de l'Ouest, jeudi dernier. Après avoir accompagné le président lors de la réunion, le ministre des Finances Sri Mulyani a déclaré que la réunion avait discuté de diverses coopérations dans le domaine des investissements et des relations commerciales entre les États-Unis et l'Indonésie. Il a déclaré que la réunion avait discuté des efforts qui pourraient être déployés par l'Indonésie pour améliorer l'écosystème de l'industrie des véhicules électriques. Selon lui, dans ce secteur, l'Indonésie dispose d'énormes ressources minérales. En outre, les efforts qui peuvent être faits par l'Indonésie sont également discutés pour obtenir des installations pour entrer sur le marché des véhicules électriques aux États-Unis, notamment en augmentant le rôle de l'Indonésie et sa capacité à attirer des investissements.
Pertama, mengenai bagaimana Indonesia meningkatkan ekosistem
Tout d'abord, concernant la manière dont l'Indonésie peut améliorer l'écosystème de l'industrie du véhicule électrique ou de la voiture électrique, dont l'Indonésie dispose en effet de très grandes ressources minérales. Deuxièmement, comment l'Indonésie peut-elle également obtenir les installations nécessaires pour entrer sur les marchés des véhicules électriques aux États-Unis? Et comment pouvons-nous accroître notre rôle et notre capacité à attirer des investissements? Sri Mulyani a en outre déclaré lors de la réunion que le président Joko Widodo a transmis l'engagement du gouvernement indonésien à poursuivre la transformation économique par l'industrie en aval, le renforcement de l'écosystème de l'industrie de véhicules électriques, la sécurité et la transition énergétique et le développement de la capitale de Nusantara. En outre, le ministre des Finances Sri Mulyani a déclaré que le président et un certain nombre d'entreprises du secteur de l'énergie avaient discuté des problèmes de changement climatique et de l'importance de la technologie de capture du carbone. Le gouvernement indonésien respectera également ses engagements en matière de lutte contre le changement climatique.
Sekarang concern mengenai climate change.
Maintenant, la préoccupation concerne le changement climatique où la technologie de capture du carbone est importante. Le gouvernement continuera à soutenir les politiques d'indépendance et de sécurité énergétique en Indonésie en respectant les engagements en matière de changement climatique en Indonésie. En ce qui concerne l'économie numérique, a déclaré Sri Mulyani, le gouvernement indonésien continuera d'améliorer la communication concernant les modèles commerciaux, du côté des services au côté de la sécurité. Selon lui, la domination de l'économie numérique doit être équilibrée, non seulement avec un service de qualité et rapide, mais aussi en termes de sécurité et de
La voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voix International Quiz 2023. Cette année, le quiz international Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023 est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 enregistrements, dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants. From Indonesia to the world.
Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 28 mai. On commence par le 28 mai 1905. La bataille de Tsushima s'est terminée par la défaite de la Russie. La bataille de Tsushima était la dernière et la plus décisive bataille navale de la guerre russo-japonaise de 1904 à 1905. La bataille a eu lieu au détroit de Tsushima le 27 et 28 mai 1905. Les navires à vapeur de la flotte combinée impériale japonaise sous le commandement de l'amiral Togo Heihachiro a détruit les deux tiers de la flotte de l'Empire russe de la Baltique sous le commandement de l'amiral Zinovy Rozhestvensky. La défaite de la Russie a ouvert la voie au traité de Portsmouth qui a mis fin à la guerre russo-japonaise de 1904 à 1905. La suite, le 28 mai 1964, l'opération de la libération de la Palestine a été mise en place. L'Organisation de libération de la Palestine, ou Palestine Liberation Organization, ou abrégée en PLO, est l'institution politique officielle de la nation arabe palestinienne qui a reçu une reconnaissance internationale. Cette institution se compose d'un certain nombre d'organisations de résistance, d'organisations d'experts juridiques, d'étudiants, de travailleurs et d'enseignants. Le but de la création de cette organisation est de libérer la Palestine de diverses formes de violence qui attaquent souvent sa société civile. De sa fondation en 1969 jusqu'à sa mort en 2004, Yasser Arafat a présidé cette organisation. Son dirigeant actuel est Mahmoud Abbas, le président de la Palestine. Le 28 mai 2008, le Népal a été désigné comme une république démocratique. Le jour de la République du Népal marque l'anniversaire de la fondation de la République fédérale démocratique du Népal, le 28 mai 2008. L'établissement de la République est intervenu à la fin d'année de guerre civile. En 1991, le premier gouvernement élu du Népal a été formé. Cependant, les nouvelles politiques gouvernementales ont provoqué une crise économique. Les troubles civils du début des années 1990 se sont finalement transformés en guerre civile. À la suite de la guerre, le Népal a proclamé une république le 28 mai 2008. Cela a marqué la fin de la monarchie de 240 ans. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Kujalani hariku, taraku dibuatmu. Ada selalu untukku, ucap kata darimu. Melayang di pikirku, tertanam di hatiku. Buatku cinta padamu. Ku ingin selalu dekat denganmu. Kau membuatku selalu
chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sous la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Et voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Les auditeurs de Voice of Indonesia, mon Indonésie d'aujourd'hui est intitulé « L'Indonésie accueille les éliminatoires du groupe K pour la Coupe d'Asie des moins de 23 ans ». Le championnat de football de l'équipe d'Asie des moins de 23 ans se tiendra au Qatar 2024, mais avant au Qatar, tous les pays asiatiques et l'Australie doivent passer par un tour de groupe de qualification. Le tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe d'Asie des moins de 23 ans 2024 a eu lieu jeudi à Kuala Lumpur en Malaisie. Basé sur le tirage au sort, l'équipe nationale indonésienne des moins 23 ans a été rejointe dans le groupe K de la qualification pour la Coupe d'Asie des moins 23 ans 2024 avec le Turkménistan et Taïwan. Le président de l'Association indonésienne de football, UPSSI, Erick Thohir, a déclaré sur le site officiel de la PSSI que la PSSI vise les meilleurs résultats pour l'équipe nationale indonésienne lors de la qualification pour la Coupe d'Asie des moins 23 ans 2024 qui aura lieu en septembre. Selon lui, la carte de la compétition de football en Asie est actuellement équilibrée, notamment dans la tranche d'âge. Donc, quel que soit l'adversaire, la préparation pour l'équipe nationale indonésienne doit être optimale. Erick Thohir a ajouté qu'il était optimiste quant à l'amélioration de l'atmosphère du football indonésien après avoir remporté leur Aussie Games. Les résultats du Cambodge fourniront une énergie positive pour obtenir les meilleurs résultats afin qu'ils puissent se qualifier pour la finale de la Coupe d'Asie. Avant de passer à la finale de Qatar 2024, 43 équipes doivent d'abord participer au tour de qualification qui se tiendra du 4 au 12 septembre 2023. La phase de groupe de la qualification du tournoi se déroulera dans 11 pays. Les 11 pays sont l'Indonésie, Bahreïn, la Chine, la Jordanie, la Corée du Sud, le Koweït, l'Arabie Saoudite, le Tadjikistan, la Thaïlande, l'Ouzbékistan et le Vietnam. Lors du tour de qualification, les équipes seront divisées en 11 groupes avec des détails sur 10 groupes contenant 4 équipes et un groupe contenant 3 équipes. Après les qualifications, 11 équipes seront sélectionnées pour la finale de la Coupe d'Asie des moins 23 ans 2024. Ensuite, 4 autres équipes se qualifieront avec le meilleur statut de deuxième parmi les 11 groupes. Pendant ce temps, le Qatar, qui est l'hôte, a été confirmé pour se qualifier pour la finale. La finale du Qatar des moins 23 ans aura lieu du 15 avril au 3 mai 2024. C'est tout mon Indonésie.
Hingga lampu dipadamkan, ku tak terlelap, ku terjaga, kau yang ku pikirkan. Terlintas satu pertanyaan, 24 jam sejak pagi hingga malam. Benarkah ini cinta atau rasa penasaran? Dan ku ingin kau menjawab semua misteri hati dan berikan ku sebuah tanda. Kau sudi tinggal di hati ini. Hingga mentari terangi setiap sudut di kamar ini. Ku masih di sini terpaku pada ekspektasi. 24 jam sejak pagi hingga malam. Benarkah ini cinta atau rasa penasaran? Dan ku ingin kau menjawab semua misteri hati dan berikan ku sebuah tanda. Kau sudi tinggal di hati. Yeah.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, le district de Jayapura est l'une des régions de la province de Papouasie en Indonésie. La capitale du district est située au district de Sentani, à 33 km de la ville de Jayapura. Dans ce sous-district de Sentani, il y a une très belle visite de la cascade Cyclope, précisément située à Sereh, sous-district de Sentani, district de Jayapura, Papouasie. L'emplacement de cette cascade est à environ 25 km du centre-ville de Jayapura et on peut y aller à la moto ou en voiture. Mais après être arrivé à l'emplacement de la cascade Cyclope, les visiteurs doivent encore continuer le voyage à pied par le sentier pendant environ 20 minutes en suivant forêt pour aller à la cascade Cyclope. Pour vous qui aimez le tourisme naturel, vous serez accro à venir à la cascade Cyclope car ce site touristique offre une vue imprenable et est entouré de gros rochers. Mais pour arriver à cet endroit, il faut beaucoup d'énergie car les sentiers de randonnée sont assez difficiles. À tout au long du chemin, vous regarderez des vues d'arbres luxuriants qui sont encore vertes. Une cascade dont l'eau vient des montagnes est très apaisante. La cascade est également éloignée des zones résidentielles, de sorte que l'eau n'a pas l'air trouble ou sale, et beaucoup de touristes décident même de nager. Il existe de nombreux objets que vous pouvez créer comme arrière-plan pour les photos à partir des cascades d'arbres, de ruisseaux et de rochers. Vous pouvez vous asseoir sur un rocher et prendre des photos magnifiques et amusantes. Pour entrer dans cette destination de cascade Cyclope, c'est gratuit. On ne précise pas l'opération de cette destination, vous pouvez donc venir à tout moment. Mais le bon moment pour venir à cet endroit est le matin ou l'après-midi. Tandis que la nuit, on ne le recommande pas, car le terrain est difficile. Vous aurez du mal à grimper quand il fait noir. Chers auditeurs, la belle vue de cette destination est vraiment apaisante pour les yeux et peut éclaircir l'esprit après une routine bien remplie. Bien sûr, cela peut vous rafraîchir.
seems to fill our days with fight. Absurdity when I'm with you. One plus one instant, always two. But without you here by my side, the brightest day felt dark like night. I miss you so when you're likewise. So baby, let us make things right.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie. Les auditeurs de Voice of Indonesia, voici l'Indonésie en couleur. Aujourd'hui, l'Indonésie en couleur, dont le titre est « Les étudiants d'ITS innovent dans la conception de ponts d'atténuation des catastrophes à Gorontalo ». Dans les efforts visant à atténuer les catastrophes naturelles, il est nécessaire de concevoir une infrastructure de construction solide et adéquate. Alors, une équipe d'étudiants du département de génie civil de l'Institut de technologie 10 novembre, s'appelle l'équipe ERGO, a innové en concevant une conception de pont à haute résistance aux catastrophes naturelles. L'équipe ERGO a réussi à développer une conception de pont avec le surnom « le pont Molifuto ». L'un des membres de l'équipe, Akbar Majid, a révélé qu'il avait utilisé l'étude de cas du pont Molinto Gupo à la région Bonebolango, Gorontalo. Le pont de Molifuto a été conçu avec le principe d'atténuation des catastrophes afin qu'il puisse survivre aux catastrophes naturelles. Akbar a déclaré que la zone du pont Molinto Gupo connaît souvent des catastrophes naturelles telles que des crues soudaines et des tremblements de terre qui entraînent l'effondrement du pont. Dans sa conception, le pont Molifuto utilise un type de pont en arc. Akbar a déclaré que le pont de type arc présente plusieurs avantages tels qu'un haut niveau de résistance et la capacité de supporter des charges importantes. De plus, le pont en arc a une structure plus solide afin de minimiser l'utilisation de l'acier. La fondation du pont est également équipée d'une couche de biotextile. Le biotextile est une technologie de couche protectrice du sol développée par l'Agence nationale de la recherche et de l'innovation, ou BRIN, en 2022. Cette couche fonctionne comme une méthode de stabilisation du sol pour empêcher l'érosion à la surface du sol. Le fonctionnement de cette technologie consiste à réduire le débit d'eau qui coule à la surface afin d'éviter les glissements de terrain. Cela ne s'arrête pas là. Le pont Molihuto utilise une structure en béton faite d'un mélange de chandra volante et de chandra de balle de riz pour améliorer la qualité et la durabilité du béton. Ce plan de conception du pont applique également le développement durable. Akbar a révélé que l'utilisation du béton mélangé visait également à réduire les émissions de carbone produites par le béton afin qu'il soit plus respectueux de l'environnement. Grâce à cette innovation, l'équipe Ergo a remporté la première place du concours international de conception de ponts organisé par l'Association des étudiants civils de l'Université de Diponegoro.
Thank you.
La voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voice International Quiz 2023. Cette année, le quiz international Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023, est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 ans, enregistrement dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants.
Chers auditeurs, voilà la chanson de pop indonésienne. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir les amis de Voice of Indonesia. Cette fois-ci, je vais vous parler d'une chanson de Juicy Luicy. Juicy Luicy, un groupe montant de Bandung, se compose de Julian Kaisar, Dennis Ligia, Zamzam Yem, et Dwi Nugroho et Bina Bagja. Cette fois, il collabore avec la chanteuse et actrice indonésienne Mawar Duyon en sortant un single intitulé Tak di Tanganku. Cette chanson avec une touche acoustique qui porte un thème trouble raconte de la romance de deux personnes séparées par la distance et le temps. La relation décrite dans cette chanson ne vise pas seulement les amoureux, mais aussi la relation entre parents et enfants, bonnes amies et bien plus encore. Bon, chers amis, voici Juicy Luicy et Mawar Duyon, dont le titre est « Tak di Tanganku ». Bonne écoute.
Malam kita sudah beda, 6 jam lebih cepat bulanku tiba. Kau masih senang di luar, ku sudah tenang di kamar. Cerita siapa yang dengar, rindu kita bertengkar.
Terang di sana cepat, di sini gelap, ku masih tidur lelap. Hanya bisa berharap engkau di sana baik-baik saja.
Siapa yang jadi bahu saat kau perlu menangis terluka di payung rindu? Apa ada yang bisa ambil peranku menjaga dirimu yang kini tak di tanganku?
Bagi kita juga beda, 6 jam lebih lama hangatku tiba. Ku baru membuka mata, kau sudah makan kedua. Gelisah siapa
sama? Di sini cepat, di sana gelap.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.